Je voulais essayer de parler ce matin de la vraie raison de Noël, ce qui nous rassemble ce matin. Et vous dire que, comme certains le savent, mais je vais le dire quand même, que Dieu, notre Père, c'est la référence absolue et parfaite. Mais il est celui qu'on ne peut connaître que s'il ne se révèle pas. C'est pourquoi, dans sa grande bonté, il y a à peu près 21 siècles, il s'est abaissé jusqu'à nous à travers Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en Jésus, il a revêtu notre humanité pour se révéler à nous. Ainsi, à Noël, le Fils de Dieu s'est dépouillé de sa divinité dans l'obéissance pour présenter la gloire du Père et apporter le salut aux humains. Et depuis cela, chaque année, nous sommes censés célébrer cet événement heureux, la naissance de Jésus, le Sauveur, Christ, le Seigneur, celui qui a été prédit depuis les temps anciens pour rétablir la paix et nous rapproché de Dieu. Mais il est triste de constater aujourd'hui que la personne centrale de cet événement est oubliée de plus en plus. Alors que Noël, avant tout, est une personne et un message merveilleux, n'est-ce pas? La lumière de ce monde, Noël, la lumière dans ce monde de ténèbres, Christ est venu apporter une image parfaite de Dieu. En Jésus-Christ, l'amour s'est incarné sur terre. Dieu est venu chez nous, nous sortir de la boue du péché. Il est venu prendre notre misère, nous donner sa lumière, la lumière. Car, comme nous le savons, depuis Adam et Ève, il existe un abîme entre les humains et Dieu, une séparation causée par la désobéissance du péché. 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 15 nous dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs, etc. » Donc, une parole certaine, mais surtout entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ venu pour sauver les pécheurs. Nous allons lire un texte qui vient d'être lu. C'est Matthieu, le chapitre 1. C'est juste pour montrer que cet événement était prévu et comment il était prévu. Matthieu 1, chapitre 1, verset 18, il nous dit ceci. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et puis il nous dit, « Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Voilà. Donc, Noël est devenu aujourd'hui une tradition. Le bon Père Noël a remplacé le Dieu vivant et vrai venu mourir pour nous, les pécheurs que nous sommes. Et le cadre de la fête de Noël aujourd'hui sont les belles illuminations de nos maisons, les bons petits plats qui, entre parenthèses, obligent quelques-uns la semaine d'après à se mettre au régime. Les cadeaux, toujours très difficiles à choisir, vous en conviendrez, etc. Et puis il y a les sondages même qui révèlent que chaque Français en moyenne dépense 550 euros pendant cette période de Noël. Je ne sais pas où vous vous situez, mais à vous de juger. Mais le plus triste, c'est que ce qui m'a le plus choqué, c'est que même les animaux y sont inclus dans cette fête. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a même une publicité qui dit de donner un Noël aux animaux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu cela? C'est vrai, je n'invente rien. Il y a une publicité qui dit de donner un Noël aux animaux. Alors, où en est-on avec cette fête, pourrait-on dire? Eh bien, moi, je pense que les hommes ont abandonné la parole de Dieu pour observer, imposer leur tradition. Voilà le triste constat. Je crois qu'il est plus que nécessaire d'être au clair, d'être au point sur les points importants de cet événement pour le célébrer dignement afin d'éviter ainsi toute confusion avec ce commerce, je dirais, effréné qui s'est constitué autour, faisant oublier à une grande majorité la signification et les valeurs de cette fête. Notre société aujourd'hui aime le plaisir plus que Dieu et renie ce qui en fait la force, c'est-à-dire la parole de Dieu, les Écritures saintes appelées tout simplement la Bible. Mais elle doit savoir une chose, c'est que l'enfant de la crèche est aussi l'homme de la croix. De nombreuses précisions sont données à son sujet dès l'Ancien Testament pour reconnaître celui que Dieu allait envoyer, celui qui vient d'être cité dans ce passage de Matthieu. L'abondance des allusions à Christ et à son œuvre dans l'Ancien Testament montre avec précision à laquelle Dieu a pris soin plutôt d'annoncer la venue de ce Messie, la venue du Messie Christ. Quelques-unes seulement de ces passages seront développés dans cette petite méditation, en souhaitant qu'elles amènent tous ceux qui n'ont pas encore fait à se tourner vers ce Sauveur et célébrer réellement Noël. Alors, quelle est la vraie raison de Noël, pourrait-on dire? Comme je vous disais en introduction, à l'origine, il existait un grand abîme, une grande séparation entre Dieu et les humains, c'est-à-dire le Dieu saint d'une part et l'homme pécheur d'autre part, car Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc comment concilier les deux parties? Il fallait que la colère de Dieu se détourne pour rétablir cette relation et recréer le lien. Comme il avait été prophétisé dès l'ouverture du Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu nous fait connaître celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, celui qui est le médiateur. Il ne pouvait être trouvé parmi les enfants des hommes parce que tous étaient entachés par le péché de nos ancêtres Adam et Ève. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nous dit Romains chapitre 3, verset 10. Donc, tous les efforts des hommes coupables, entre guillemets, se révélaient inutiles pour produire une quelconque amélioration. Dieu pourtant voulait rétablir une relation entre lui-même et sa créature. Il nécessitait une solution, un remède puissant pour le péché. Le seul moyen fut l'envoi de son Fils, du Fils de son amour. La venue de Jésus sur terre, de manière miraculeuse pour réunissant dans sa personne la divinité et la parfaite humanité en même temps, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, rien pour plaire, nous dit Ésaïe chapitre 53, verset 2. Né dans une crèche, pas plus bas, il n'y en a pas. Mais c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, nous dit le verset 21 de notre texte de Matthieu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le grand mystère de la piété. Dieu manifesté en chair, Dieu se fait homme en Jésus-Christ et vient vers nous. La réalité de la nature humaine de Jésus est amplement démontrée par les récits des évangiles et les témoignages qu'en rapportent les apôtres rend cette vérité encore plus convaincante. Mais j'ai à cœur de citer trois versets qui indiquent la perfection absolue de l'humanité qu'a revêtu notre Seigneur. Car bien que participant au sang et à la chair, il n'avait pas la nature pécheresse de l'homme. Ces trois versets que je veux garder ce matin sont 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, qui nous dit qu'il, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Un deuxième verset, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Et le dernier verset que je veux laisser ce matin, c'est 1 Jean 3, 5 qui dit, il n'y a... Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Donc, trois termes dans ces trois versets, celui qui n'a pas connu le péché, lui qui n'a pas commis de péché et il n'y a point de péché en lui. L'union de la nature humaine et de la nature divine en une même personne est un mystère qui ne nous est pas permis d'analyser. Je dirais entre guillemets, les choses cachées sont à Dieu. Mais la parole de Dieu le déclare et ce matin, je le crois et je l'adore, et c'est ce à quoi je vous invite. C'est ce à quoi je voulais vous inviter ce matin par cette méditation. Ce qui importe, c'est que cette façon de venir vers nous, de se faire connaître, est conforme à ce qui était annoncé par les prophètes, comme par exemple Ésaïe. En Ésaïe 9, verset 6, nous pouvons lire « Un enfant nous est né, c'est l'humanité, un fils nous a été donné, c'est la divinité. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, sera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Tous ces titres nous démontrent à la fois sa divinité et son humanité. En même temps, Dieu et homme, il en exercera les droits selon le pouvoir, son pouvoir divin et à cause de sa qualité de fils de l'homme, selon ce qu'il dit lui-même dans Jean chapitre 5 et les versets 26 à 27. Il dit ceci, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. On pourrait se poser la question, qui peut avoir pouvoir sur la vie et de juger si ce n'est le divin? Dans un autre contexte et dans la plus profonde humilité, il dira, Jésus lui-même, « Je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Maintenant, si nous rapprochons notre texte de Matthieu 1 et le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Que comprenons-nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, il sera le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui rétablira cette relation, cette communion avec le Père, avec Dieu. Et l'apôtre Jean nous confirme dans son épître au 1 Jean, au chapitre 1, versets 1 à 4, il a été vu, contemplé, touché, etc. Et pendant tout ce temps où il a été vu, touché, contemplé, il a montré sa gloire, celle de l'homme parfait, le Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité, accomplissant la volonté de Dieu jusqu'au bout, c'est-à-dire sauver ce qui était perdu. Nous étions tous perdus, esclaves du péché et de Satan. Il fallait être rendus libres. Par le don de Jésus, nous avons été libérés de la puissance de Satan et de l'esclavage du péché au prix infini du sang qui fut l'accomplissement de sa venue. Car c'est pour cette œuvre qu'il était venu, c'est pour cette œuvre qu'il est descendu du ciel, acheté pour Dieu par son sang toute tribu, tout peuple, toute nation. Voilà donc comment les chrétiens connaissent Jésus-Christ. Pour nous, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde pour ouvrir à l'homme le chemin du ciel par son sacrifice expiatoire sur la croix. L'œuvre de Christ à la croix est valable devant Dieu pour le monde entier. Mais une chose, seulement celui qui se l'approprie par la foi en bénéficie. Face à toutes les prophéties accomplies, il ne peut y avoir de doute. Jésus est bien le Christ annoncé par l'Écriture. Nous pouvons affirmer que le Fils de Dieu est venu, loin de l'Éternel, le Messie. À sa naissance, l'ange a déclaré au berger, « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. » Jean, le voyant arriver, déclara, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et puis un des disciples, André, dira à son frère Simon, « Nous avons trouvé le Messie. » Et les apôtres qui l'ont côtoyé pendant son ministère n'ont cessé d'enseigner et annoncer qu'il était le Christ. Enfin, lui-même dira à son propos, « Sondez les Écritures et rendez témoignage de moi. » Le Christ, né dans la crèche, correspond jusque dans les moindres détails à celui qui avait été prévu et annoncé par les prophéties. Correspond à celui qui a vécu sur la terre dans ce monde sans commettre de péché. Il correspond à celui qui est mort sous la croix, mais qui est aussi ressuscité. Il est vivant aujourd'hui dans le ciel, intercédant pour tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. La parole de Dieu nous affirme aussi avec certitude que de même qu'il est apparu une première fois ici-bas, offert une fois pour porter les péchés des hommes, il reviendra. Il apparaîtra une seconde fois pour enlever avec lui dans le ciel, la maison du Père, ceux qui l'ont reçu comme sauveur et comme Seigneur. Donc ce matin, dans l'attente de ce glorieux retour, nous admirons la façon dont Dieu, dans sa préscience, a prévu et préparé, avant même la fondation du monde, l'agneau qu'il voulait envoyer, le sacrifice parfait. Maintenant, une question pour conclure. Connaissez-vous Jésus-Christ que Dieu a envoyé pour vous sauver? Hébreux chapitre 2, verset 3 nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Je vous ai cité divers passages, justement, où nous avons le témoignage de personnes qui l'ont vu, qui l'ont entendu, qui l'ont touché, etc. Donc la question se pose à tous. Chacun doit y répondre pour lui-même. C'est une affaire trop importante, je dirais, pour laisser à quelqu'un d'autre le soin d'y réfléchir à sa place. Reconnaître Christ comme sauveur, c'est faire la paix avec Dieu et accepter son plus grand cadeau pour vous. Alors, pourquoi ne pas lui rendre hommage ce matin en l'acceptant? Soyez-en certains, il vous accueillera et vous pardonnera et vous ferez de Noël une réalité, une vraie fête en famille cette année. Alors, ne passez pas à côté de ce message d'amour de Dieu pour vous ce matin, son Fils unique donné pour vous sauver. À tous, je vous dis joyeuse commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Amen. Amen.